Vous écoutez RTL.
Donnez-nous des jardins.
RTL.
Des jardins pour y faire des bêtises.
La curiosité est un vilain défaut.
Monet, c'était pas un peintre d'atelier, c'était surtout un peintre de nature, d'extérieur. On a l'art du jardin.
Dans mon jardin d'hiver.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
On vous propose une balade dans les plus beaux jardins de France et du monde, et notamment celui de Claude Monet, bien sûr, mais on va aussi parler de Louis XIV et de sa passion pour les petits pois, de Joe Cooker, bon là on est plus en France, on est d'accord, hein, et de sa passion pour les tomates, de Michelle Obama qui, elle, cultive les courges à la Maison Blanche.
C'est mais pas tiens, sympa donc, d'appeler son mari comme ça.
Non,
mais franchement.
C'est pas ça, c'est son vraie courge.
Bon, on va vous expliquer, les cucurbitacées, d'accord.
Je crois que vous n'avez pas la main verte, hein, dites donc.
Non, pas vraiment.
Ce soir, dans la curiosité, on reçoit une dramaturge, Pauline Tanon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes une passionnée de jardin. Vous allez nous révéler tous ces secrets des jardins des grands. Et notamment, on va commencer par celui de Claude Monet à Giverny, dans l'Eure. C'est l'un des jardins les plus connus, d'ailleurs, de France. Il ressemble à quoi en ce moment ? Nous sommes au mois de mai.
Il est fleuri.
Fleuri.
Fatalement. J'imagine qu'il essaye de donner une idée de ce qu'était le jardin de Claude Monet. Donc, il doit être fleuri dans des couleurs vives. Et il va falloir attendre l'été pour voir le plus beau, c'est-à-dire les nymphéas en fleurs, qui sont quand même la fleur emblématique de ce jardin, qui a été la grande passion de Monet, à la fois comme peintre, on le sait, et comme jardinier.
C'est un grand jardin, le jardin de Claude Monet à Giverny ?
Non, c'est un jardin qu'il a pris comme il était, quand il y est arrivé pour loger sa nombreuse famille. C'était un petit jardin vilain qu'il a commencé par mettre à son goût en coupant des arbres, en plantant des fleurs. Et le grand moment, c'est quand il a pu, grâce à la vente de ses tableaux, parce que quand il est arrivé, il était très désargenté, mais au bout de quelques années, la célébrité, grâce à ses bons vendeurs, notamment Durand-Ruel, a commencé à permettre d'avoir de plus grands projets. Et donc, il a agrandi son jardin en allant jusqu'à l'Epte, l'affluent de la Seine, qui lui a permis de faire ce jardin d'eau, qui est quand même l'aspect le plus extraordinaire du jardin.
Mais c'est
le plus japonisant.
Monet, oui, qui cultivait son jardin ?
Oui, oui. C'est comme les autres personnages de ce livre. Il va au-delà de la conception. Il manie la bêche, il commande les graines, il s'investit pleinement. Donc chacun des personnages de ce livre s'investit à la hauteur du temps dont il dispose et de ses capacités. Claude Monet disposait de beaucoup de temps puisqu'il travaillait chez lui et que pour se distraire de la peinture, il exerçait cette deuxième passion qui était une passion pleine. On peut dire qu'il a été paysagiste et paysager.
Mais Pauline Tanon, j'ai bien compris... ce que vous nous dites, le cours d'eau, il l'a détourné quasiment ?
Oui.
Pour créer ce jardin d'eau, et on n'y aurait pas eu les nymphéas sans ça, c'est ce que j'ai compris.
Oui, il a fabriqué le bassin, oui. Enfin, il s'est pas sur des kilomètres. Hein. La Seine est juste à côté, enfin, la Seine n'est pas loin, et l'Epte, voilà, il n'a pas pris l'eau
il
de
robinet. Il n'a pas eu besoin de creuser un canal interminable.
Non,
d'accord,
non.
On a compris.
Donc
voilà.
Il imagine ce jardin, il imagine ce jardin d'eau, ces nymphéas. Et tout d'un coup, c'est l'inspiration. Ce jardin l'inspire et transforme aussi le peintre qu'il est.
Oui, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'était un paysagiste qui avait l'habitude de peindre des meules, des bateaux, des falaises, les fleurs de son jardin. Mais les reflets dans l'eau de ce bassin japonisant ont été, peut-être parce que c'était aussi la période de sa maturité, une source d'inspiration extraordinaire. Et ça n'est pas pour rien que les nymphéas sont l'œuvre que l'on sait, qui est une œuvre charnière pour l'histoire de la peinture, puisque tout d'un coup, il passe de l'impressionnisme à une peinture presque abstraite.
Question un peu de béotienne, parce que moi non plus, j'ai pas trop la main verte, à part élever des bambous sur mon balcon. Les nymphéas, c'est une fleur ou c'est le nom des tableaux de
C'est une fleur.
C'est une fleur
que vous connaissez sous deux autres noms plus.
Nénuphar.
Voilà.
Ah,
et le lotus. Voilà, c'est la même fleur et qui porte ces trois noms. Lotus, ça vous évoque l'Égypte sans doute. C'est une plante qui était très importante dans les mythologies égyptiennes et en Asie aussi. elle est symbolique de la résurrection, de l'âme et d'une certaine spiritualité. Donc ça a pu jouer aussi dans cette passion de Monet pour la fleur.
Dans votre livre Les secrets des jardins que vous publiez à la librairie Vuibert, vous racontez que ce lieu, Giverny, festival de couleurs en période de floraison, Monet en choisissait la couleur plusieurs mois à l'avance, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il décidait, cette année, ce sera une tonalité rouge ?
Oui, c'est ce que raconte son ami Sacha Guitry, et c'est très étonnant. C'est comme ça qu'il a décoré sa maison aussi. Hein. Il a décidé qu'il y aurait une salle à manger jaune, un salon bleu, une cuisine bleue. Donc il était dans le monochromatisme. Et pour le jardin, il y avait aussi le goût du monochromatisme et de quelque chose de très ordonné. Ce qui n'était pas du goût de tout le monde. Par exemple, Colette trouvait que c'était...
L'écrivain, non ?
Oui, qui est aussi un des personnages du livre. Plutôt une amatrice de jardin sauvage et un peu comme elle, un peu comme...
C'était trop bien rangé
voilà,
chez Monet, c'est ça ?
Elle trouvait qu'il ordonnait trop la nature.
Et aujourd'hui, ce jardin de Giverny, il est toujours ordonné comme ça ? Il y a une couleur qui domine chaque année comme une collection de haute couture ?
Je ne peux pas vous répondre à cette question.
Mais comment ça, vous n'y allez pas ?
Pas tous les ans.
Non, j'imagine.
Et donc, j'imagine que non, parce que le goût du public doit être de retrouver les couleurs des tableaux de Monet. Donc, je suppose que peut-être les jardiniers actuels ne sont pas aussi jusqu'au boutiste que le créateur du jardin.
Vous disiez jardin japonisant, ça veut dire que c'est un lieu qui est visité par les Japonais aujourd'hui, connu par les Japonais ?
Oui, parce que les Japonais sont curieux. Hein.
C'est bien, on va les inviter, ils seraient au bon endroit ici sur RTL.
On sait que ce sont des touristes extraordinaires qu'on trouve dans des endroits improbables. Giverny n'est pas un endroit improbable pour eux parce que il y a eu de grands échanges entre Monet et les Japonais. À la fois parce qu'il était un collectionneur averti des estampes et de porcelaines japonaises, comme beaucoup de ses contemporains, mais aussi parce qu'il fréquentait des Japonais et avait des amis japonais.
Alors il existe même, paraît-il, une réplique de son jardin, le jardin de Giverny, au Japon ?
Oui, ça c'est tout à fait extraordinaire. Quand le jardin a été repris par un conservateur de Versailles en 1977, pour une ouverture au public 3 ans plus tard, il a été contacté par des Japonais, des admirateurs, qui lui ont demandé un petit coup de main pour faire une réplique à Kitagawa de ce jardin. Donc c'est extraordinaire parce que tout ça, c'est des histoires de reflets. Hein. Les nymphéas de Monet, c'est le reflet de la lumière dans l'eau. Et la maison de Monet était pleine d'œuvres d'art japonaises et le jardin était plein de plantes japonaises, d'espèces japonicae. Et là, il y a cette espèce d'ultime
reflet
voilà, qui est la duplication du jardin de Giverny au Japon.
On va continuer avec vous, Pauline Tanon, de découvrir des jardins et des plantes et des fleurs. Et notamment la tulipe, on va découvrir qu'elle n'est pas hollandaise, mais turque. À tout de suite dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Mange des tomates nuit et jour. Ça donne bonne mine. C'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé.
C'est pris, Thomas ?
Oui,
vous avez mangé
oui.
votre tomate aujourd'hui ?
Moi, je suis ça, mais scrupuleusement. Et je trouve ça génial de voir comme l'univers des jardins a pu inspirer des artistes et des chanteurs et des compositeurs. On se balade dans les jardins secrets du monde avec notre invitée Pauline Tanon. Et Sidonie a annoncé tout à l'heure quelque chose d'incroyable. La tulipe n'est pas hollandaise, allons bon.
Mais non, pourquoi voulez-vous qu'elle soit hollandaise ?
Je ne sais pas, parce qu'on m'a élevé dans cette croyance.
Non, elle est himalayenne. C'est une fleur qui a énormément plu aux nomades des steppes asiates depuis longtemps, parce qu'elle ramenait, comme les hirondelles chez nous, elle ramenait le printemps. Mmh. Et quand les Turcs ont créé leur empire, enfin pardon, quand les hommes des steppes, les futurs Turcs ont créé leur empire ottoman, ils en ont gardé ce goût des fleurs, exprimé très bien par un poète du XIe siècle, Omar Khayyam, qui décrit la tulipe comme symbole de vie, mais aussi symbole de mort et de spiritualité. Symbole de mort parce que la couleur de la tulipe répandue sur les steppes évoquait le sang des guerriers répandus au champ de bataille.
Et c'est un nom turc ou non, enfin c'est le...
D'où vient le nom, oui.
Le nom vient du mot turc tulbent, qui ne désigne pas du tout la fleur, mais le turban. La fleur en turc s'appelle lalé, qui évoque plutôt Allah. Ça résonne avec le mysticisme attribué à cette fleur. Les voyageurs qui ont ramené cette fleur en Europe ont fait une confusion entre tulipe et turban, tulbent, parce que la forme... sans doute du turban évoquait un peu celle de l'enroulement de la tulipe. Et puis une autre raison peut-être, c'est que les Turcs aimaient beaucoup les fleurs, peut-être plus qu'en Europe à ce moment-là, et ils décoraient leur turban délicatement d'une tulipe, d'un œillet.
Et vous racontez dans Le secret des jardins aux éditions de la librairie Vuibert que Soliman le Magnifique aimait particulièrement cette fleur, la tulipe. On est à quelle époque ?
On est au XVIe. Il n'est pas original. Il ne fait que reprendre le goût de ses ancêtres.
Tout simplement.
Voilà. Donc le passage des steppes à la sédentarisation a permis au seigneur de l'Empire ottoman de créer de très beaux jardins.
Alors donc, aujourd'hui encore, en Turquie, à Istanbul notamment, on plante des bulbes. 30 millions de bulbes, je crois, ont été plantés au mois d'avril.
Oui, ils ont...
Bulbes de tulipes.
Voilà, ils se sont aperçus que peut-être les Hollandais faisaient de grandes fêtes de la tulipe, alors qu'ils s'intéressaient à la fleur depuis moins longtemps qu'eux. Et les Turcs ont, depuis quelques années, décidé de promouvoir à nouveau la tulipe dans les jardins d'Istanbul.
Vous nous disiez que les grands personnages dont vous parlez dans votre livre ont tous la main verte et que donc ils mettaient la main dans la terre. Soliman le Magnifique aussi, c'était un jardinier ?
Oui, je disais tout à l'heure que c'était autant qu'ils avaient de temps disponible à consacrer. Donc Soliman était quand même un conquérant très actif, il était souvent en campagne, mais quand il était à Istanbul, il passait le plus clair de son temps dans ses jardins. Il en avait de très nombreux, très variés, dont il avait conçu le dessin, dont il avait organisé la vie. Et il raconte à un voyageur qu'il a en effet planté les cyprès de l'un de ses jardins. Voilà. Donc je pense qu'il n'avait pas le temps de planter personnellement les bulbes de tulipes, et puis il avait 3000 jardiniers pour ce faire. Mais il avait un goût profond certainement pour ses jardins, et il y passait beaucoup de temps. C'était le lieu de vie.
Alors on pensait bêtement que la tulipe était hollandaise. Elle arrive comment ? Quand en Hollande ?
Elle arrive avec un Français, mais il est rarement mis à l'honneur. C'est un voyageur qui s'appelle Pierre Bellon et qui fait tout un tour en Orient, en commençant par la Grèce. Et il arrive avec l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de François Ier. Et il s'intéresse à toutes les plantes et il va en ramener beaucoup en France. Il va ramener le platane, le seringa, la tulipe, la jacinthe. Et la tulipe, il ne l'identifie pas très bien. Il pense que c'est un lys rouge, parce qu'à l'époque, la tulipe cultivée dans les jardins de Soliman est très effilée, très longue. Vous l'avez vu sur les faïences ou sur les tapis, c'est une espèce de...
Pas celle qu'on connaît aujourd'hui ?
Non, elle est plus comme une flamme, elle est très fine. La tulipe est devenue plus plantureuse à force de s'hybrider.
Alors on fait comme ça une espèce de tour d'horizon des grands personnages. On va quitter Soliman le Magnifique pour parler de Louis XIV. Louis XIV, c'était le petit pois, disait Sidonie. Pourquoi ?
Il s'intéressait à toutes les productions du potager. Il avait aussi une passion pour les figues. Mais j'ai préféré décrire sa passion pour les petits pois. Parce que,
c'est par goût ou pour la beauté de la cosse et du légume ?
Il était très gourmand. Hein, sa gourmandise lui a joué des tours, puisque je crois qu'il a fini avec de gros problèmes intestinaux et gastriques. Mais le petit pois était vraiment son péché mignon. Pas si mignon que ça, d'après son médecin, qui le lui reprochait... régulièrement.
Pourquoi, c'est pas facile à digérer, le petit pois ?
C'est ce qu'il dit. Voilà. Ah.
Bon, on n'était pas à 5 fruits et légumes par jour à l'époque ? C'était pas la règle ?
Oh, je crois plus que ça, parce que quand on lit les listes établies par son jardinier Jean-Baptiste Lacantini, on s'aperçoit qu'il y a une diversité absolument merveilleuse de légumes cultivée dans le potager de Versailles.
Est-ce que c'est en raison de sa passion pour les petits pois que Louis XIV fait aménager le potager du roi dans les jardins de Versailles ?
Oui, je crois que le petit pois était vraiment un péché grave, mais il devait consommer, comme vous le recommandiez, au moins ses 5 fruits et légumes par jour.
Il jardinait lui-même, Louis XIV ?
Oui, c'est peu connu parce qu'il y a peu de témoignages, mais son jardinier en atteste dans la préface de l'ouvrage qu'il a écrit, l'instruction pour les jardins potagers. Il dit que le roi lui a fait l'honneur de venir au potager pour prendre des leçons de taille des fruitiers.
Alors on dit le potager du roi, comme ça, là, ça a l'air facile d'un claquement de doigts, sauf que ça a demandé un peu de travail, c'est ça, pour le créer ?
Oui, 5 ans de travaux pour assécher l'étang puant, pour amender la terre, parce que ça n'était pas du tout l'endroit idéal. Mais c'était le vœu du roi qui disait qu'il fallait que ce soit suffisamment près du château pour qu'il puisse y aller quotidiennement. Jean-Baptiste Lacquintini, à qui il avait confié cette mission, a protesté, disant que c'était une très mauvaise terre, mais il fallait s'incliner.
Allez, d'autres personnalités à venir. Thomas Jefferson, tiens, il cultive du cannabis. Darwin, il se passionne pour les orchidées, et puis on va voyager dans le temps. Michelle Obama, elle fait pousser des courges à la Maison Blanche. D'autres histoires de jardin à venir. Bah oui, j'adore.
Après les infos. Et dans la seconde heure de l'émission, vous raconterez un duel à mort entre deux puissants surnommés le loup et le lion. C'est Henri III contre le duc de Guise.
Vous écoutez RTL.
Merci et prochain rendez-vous avec l'information sur l'antenne d'RTL, 22h avec Le Grand Soir.
RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bienvenue aux curieux qui nous rejoignent. On est ravis de vous accueillir pour encore une heure d'histoires incroyables et de destins palpitants comme celui
des duels.
Du duc de Guise. Bah justement, j'adore. Sacré duel. Il a failli prendre le pouvoir et renverser Henri III en étant 1588. Guerre de religion, trahison et règlement de compte au programme.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais.
Comme chaque année, Michelle Obama se met au jardinage dès que les premiers rayons du soleil apparaissent.
RTL.
C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Plein de grands de ce monde mettent la main en terre, cultivent un jardin pas toujours secret, certains oui, d'autres non. On en parle avec la dramaturge Pauline Tanon. On file à la Maison Blanche. Alors ça étonne absolument Thomas, chaque fois qu'on en parle depuis le début de cette émission. Michelle Obama qui cultive des courges et des curcubitacées, c'est ça ?
Je crois que pour Thomas, on va leur donner le nom américain, il sera plus à l'aise. Des squash.
Ah, c'est joli.
You like it.
Squash. Et est-ce qu'il y a des canards qui parlent anglais aussi ?
Ah oui, bah, ils pourront peut-être vous donner des cours d'anglais.
Ça, c'est pas très sympa, franchement. Un affreux coup bas signé Sidonie Bonnec, que vous pouvez le noter pour les archives d'RTL.
Non, mais la famille des courges, des citrouilles, la famille des cucurbitacées est une famille compliquée.
Oui. Pourquoi ?
Puisqu'elle contient...
Il y a des histoires ?
Elle contient également les courgettes, les potirons, voilà. Donc, les Américains disent les summer squash et les winter squash.
Et alors, pourquoi Michelle Obama les cultive, ces courges et ces cucurbitacées, à la Maison Blanche ? Je l'ai mal dit,
non,
c'est ça ?
Dites squash.
Les squash, pardon.
Ça fait deux fois, mais bon, sur moi, je relève plus, hein, mais bon. Cucurbitacé dans l'ordre.
Cucurbitacé.
Non, t'as un R de trop,
non.
Là.
Ouais. Curcubitacé.
Non, cucur.
Cucurbitacé.
Oui, cucur, ah, voilà. C'est comme
squash.
Ça, et c'est dans l'ordre.
Les squash, vous allez être très branchés si vous parlez des squash de Michelle Obama.
Ah oui, moi j'ai appris ça ce soir grâce à vous.
Voilà, donc les squash, elle les cultive par respect pour l'histoire de l'Amérique, qu'elle fait revivre dans le potager, qu'elle a planté aussitôt que son mari a été nommé à la présidence des États-Unis, par référence à d'illustres prédécesseurs comme Thomas Jefferson et Eleanor Roosevelt, mais aussi certainement par goût personnel.
Et je ne comprends pas, parce qu'eux-mêmes cultivaient ce genre de légumes.
Oui, Jefferson était un grand amateur de légumes. Eleanor Roosevelt, avait surtout une conviction de First Lady soutenant son mari dans ses activités. Et pendant la guerre, elle a donné l'exemple en cultivant à la Maison Blanche, comme tous les Américains étaient incités à le faire à ce moment-là, un potager de la victoire. L'idée
pourquoi était... c'est politique ? Pourquoi c'est un symbole politique, le potager ?
Pour les Américains, visiblement, la Maison Blanche est un terrain de... peut-être comme Louis XIV, finalement, d'expérimentation et de travaux jardiniers qui peuvent avoir un impact sur leurs concitoyens. Peut-être que quand Louis XIV cultivait ses légumes dans le potager de Versailles, il y avait aussi l'idée de donner un exemple.
Alors moi, je ne comprends toujours pas pourquoi Michelle Obama, elle choisit les courges.
Pas seulement les courges.
Elle aurait pu faire la fraise ou la cerise.
Moi, ça me fait penser à la tradition d'Halloween, qui est une des grandes traditions américaines, par exemple.
Oui, vous avez raison. La courge est un légume américain que les premiers arrivants ont découvert grâce aux Indiens. On a l'idée de tribus indiennes chasseuses et cueilleuses, mais elles étaient également parfois cultivatrices. Et elles avaient une culture de trois légumes qu'on appelle les trois sœurs, qui était une culture associée. Donc le maïs, la courge, potiron, squash, une cucurbitacée. Le maïs, je l'ai déjà dit. Et
les haricots.
Non, non. Oui, les haricots, merci. Les haricots.
C'est parce qu'on a bien lu votre livre, c'est pour ça.
Voilà, moi, j'étais en train d'oublier comment ça fonctionne. Et ces trois légumes s'associent très intelligemment puisque le haricot grimpe sur la tige du maïs. Les deux font de l'ombre au cucurbitacé. Et le tout, quand les cultures ont été faites, produit un excellent terreau. Et donc, les Indiens disaient, on rend à la terre par les fans de tous ces légumes ce qu'elle nous a donné.
Elle cultive elle-même, Michelle Obama, ou elle fait cultiver ce jardin ?
Elle cultive elle-même. Je crois qu'elle va bien au-delà de la pose pour les photographes. Elle est toujours très élégante.
Est-ce qu'elle fait goûter les légumes également ? Elle organise des grandes tablées où on peut faire des gratins de cucurbitacées.
Qu'est-ce qu'ils font avec, les produits du jardin de la Maison Blanche ?
C'est un potager ouvert. Donc, à la fois, c'est un potager qui raconte l'histoire des États-Unis en rappelant que les premiers Américains ne sont pas les pionniers, mais les Indiens. Donc, cette culture des trois légumes qu'elle a voulu reproduire rappelle les origines de l'Amérique. Et en même temps, elle dit que le potager de la Maison Blanche est un exemple de melting pot, c'est-à-dire qu'on accueille le chou chinois, on accueille le chou de Bruxelles, accueille
tout. Elle fait de la politique avec son jardin.
Elle fait de la politique avec son jardin. Et les jardiniers de la Maison Blanche, qui est la seconde, sont à la fois des professionnels et les enfants des écoles et les collaborateurs de la Maison Blanche. Comme dans d'autres endroits des États-Unis, le jardinage urbain est une détente et un lien social, et avec des ramifications intéressantes, puisque les produits du potager de la Maison Blanche sont donnés tout près, à quelques centaines de mètres, à une cuisine, comment est-ce qu'on appelle ça, une cuisine, une cantine gratuite, un restaurant du cœur.
Oui, ils ne font pas du business avec les légumes de la Maison Blanche, ils font de la charité plutôt.
Une partie est mangée à la Maison Blanche et une partie importante de la récolte est donnée aux pauvres. C'est le message politique de Michelle Obama. Il faut cultiver ces légumes, de même que Eleanor Roosevelt avait considéré qu'il fallait le faire pendant la guerre. Aujourd'hui, elle dit qu'il faut recommencer, il faut reprendre la culture des légumes parce que nous sommes un pays qui a beaucoup de pauvreté et de malnutrition.
Alors, quel était le message dans ce cas-là de Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis ? Je découvre dans votre livre qu'il cultivait le cannabis.
Entre autres.
Attendez, il fumait dans son rocking chair, c'est quoi cette histoire ?
Oui, absolument, il fumait dans son rocking chair. Il n'y avait pas de prohibition sur la consommation du cannabis. Et comme il le cultivait pour en faire du textile, des cordages, c'était le chanvre utilitaire que nous avions beaucoup en Europe à la même période.
Bon, il ne va pas faire que du chanvre avec les cordages, il le fumait un peu aussi.
Mais bien sûr, bien sûr.
Ah oui, quand même.
J'ai lu souvent qu'il y a deux cannabis, le cannabis utilitaire et le cannabis récréatif.
C'était légal à l'époque de fumer du cannabis ?
Oui, ça le redevient. Le Colorado, l'État de Washington,
la Californie
légalise à nouveau. Voilà,
certains États américains, oui.
Voilà. Donc ce cannabis, qui était quand même cultivé essentiellement pour un usage utilitaire, avait son usage récréatif. Et quand vous avez bien travaillé à la fois comme président des États-Unis et comme planteur dans votre... propriété personnelle, je trouve que ça peut être légitime.
Ben voilà, un petit verre de rouge ou
à consommer
un petit
avec grande modération.
Évidemment, un peu de cannabis pour le président des États-Unis. Voilà, c'est le message du soir sur RTL.
Ça aide, vous croyez, à bien prononcer cucurbitacée ou pas ?
Bravo, quel progrès en quelques minutes, c'est impressionnant. Allez, on va faire un petit tour maintenant par le jardin de Charles Darwin, oui, l'auteur de L'origine des espèces. Restez avec nous.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
Pauline Tanon est notre invitée avec elle on pousse la porte des jardins célèbres, et notamment celui de Charles Darwin. Pour lui, le jardin c'était une passion, mais aussi un terrain scientifique forcément.
Oui, on se souvient de Charles Darwin faisant son tour du monde sur le Beagle, et puis de Charles Darwin rédigeant la théorie révolutionnaire sur l'origine des espèces. Mmh. Mais on ne s'interroge pas beaucoup sur sa vie quotidienne, qui a offert l'apparence d'une vie très plan-plan, puisque de retour de son voyage, il se marie, il commence à fonder une petite famille, et étant dénué de ressources, comme beaucoup de chercheurs, il a acheté une petite maison vilaine à quelques kilomètres de Londres, où il a vécu toute sa vie, en faisant juste le tour de son jardin.
Et donc vous nous présentez un Charles Darwin jardinier, et donc je vous disais, expérience scientifique, pourquoi ? Parce qu'il a testé sa théorie de l'évolution en quelque sorte sur les plantes ?
C'était un scientifique à 100%, donc ce genre d'esprit ne peut jamais s'empêcher de chercher. Donc je pense que son environnement immédiat est devenu très grand.
Mais qu'est-ce qu'il faisait concrètement?
Grâce à son imagination et à sa capacité
d'analyse.
Il regardait déjà ce qui poussait. Il avait, comme les Anglais ont, un grand respect de la plante sauvage dans son milieu.
Les mauvaises herbes comprises?
Les mauvaises herbes comprises. D'accord. Et il a vu, par exemple, un carré qui était dédié à l'arrivée et au départ des plantes, comme Gilles Clément en a fait plus tard l'expérience, le célèbre paysagiste. Donc un jardin en mouvement. Et il observait les orchidées qui poussaient dans la campagne. Il observait les plantes qu'il avait mises autour de sa cuisine. Voilà. Et à force d'observation, il s'est rendu compte que les fleurs étaient peut-être la meilleure façon de donner un exemple concret de sa théorie, qui est si vaste qu'il avait l'impression de ne pas avoir pu vraiment l'illustrer. Et puis,
qu'est-ce qu'elle racontait alors, ces fleurs ?
Mais il s'est aperçu que les fleurs avaient besoin, pour être fertilisées, de faire des croisements. L'idée à l'époque, c'était que finalement, les fleurs ayant des organes mâles et des organes femelles s'auto-fécondaient. Et il a apporté la preuve du contraire. Oui, elles peuvent s'auto-féconder, mais assez rapidement, au bout d'une ou deux générations, une fleur qui ne rencontrerait pas d'autres individus péricliterait.
Alors Charles Darwin fait aussi des découvertes sur le fonctionnement des orchidées. Par exemple, il découvre qu'elles inventent des stratégies pour attirer les insectes au fond de leur calice.
Contrairement à beaucoup d'autres plantes qui peuvent s'auto-féconder, il s'est aperçu que l'orchidée ne pouvait absolument pas s'auto-féconder. L'expérience était simple, il fallait la mettre sous une cloche de verre et voir ce qui se passait. Mais il ne se passait rien si il n'y avait pas d'insectes pour venir la visiter. Et il s'est fait livrer des orchidées du monde entier. Il avait un ami très cher qui était le directeur des jardins royaux de Kew à Londres et qui lui fournissait des plants intéressants. Et sur une de ces orchidées, qui porte aujourd'hui son nom, l'orchidée de Darwin, il a fait l'hypothèse qu'il fallait un papillon ayant une très longue trompe pour le polliniser, puisque l'éperon de la fleur mesurait 28 cm. Ça a fait rire tout le monde. On n'avait jamais vu un papillon ayant une trompe de 28... Je ne sais pas si on dit trompe. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Au moins, on la visualise.
Voilà, vous visualisez de 28 cm.
On voit un peu une trompe d'éléphant sur un papillon. Ça fait drôle, mais on la visualise.
Voilà. Et donc, il dit qu'elle doit l'enrouler. Il doit l'enrouler, cette trompe, parce que c'est impossible qu'il y ait une trompe d'éléphant, justement.
Il avait l'intuition d'une
voilà,
réalité.
Voilà, il avait l'intuition. Et on a trouvé ce papillon qui, en effet, existe. Et dont la trompe s'enroule, vous imaginez, nombreuses fois sur elle-même.
Pour ensuite aller fertiliser faire son travail pour que les plantes survivent. Il a une drôle d'idée, quand même, Darwin. Il a tenté, comme expérience loufoque, de jouer de la musique, c'est ça, aux plantes, pour voir si elles étaient sensibles aux vibrations sonores, en quelque sorte.
Oui, il n'y avait jamais d'expérience assez loufoque pour lui. C'est-à-dire que dès qu'une intuition scientifique, une idée lui traversait l'esprit, il l'a testée sans crainte du ridicule. Et son fils, jouant du basson, il lui a demandé une fois de voir si les fleurs pouvaient réagir au basson. Il s'est avéré que non. Il a fait la même expérience sur des vers de terre. Qui était également sourd.
Qui ne se mettait pas à danser, quelle déception.
Voilà. Donc il ne théorisait pas, mais c'est par des expériences comme ça très sensibles que finalement il a développé des idées sur la botanique qui étaient tout à fait novatrices pour l'époque. Parce qu'on faisait, on faisait des descriptions, on pouvait organiser les familles de plantes, mais on ne se souciait pas de savoir comment elles vivaient, comment elles bougeaient, comment elles sentaient.
Il y a un autre grand homme qui regardait les plantes pousser aussi, c'est Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce qu'il passionnait, lui, dans ce qu'il voyait, dans ce qu'il observait ?
Il va beaucoup moins loin que Darwin, évidemment. Ce qui l'intéresse, il regarde les plantes en philosophe. Ce qui l'intéresse, c'est de les nommer, de les classer, d'inventer, si c'était possible, un nouveau système pour les organiser. Donc il invente même des petits dessins, des petites calligraphies. Il se dit que ce système presque d'idéogramme pourrait être adopté par tous. Il avait fait une tentative similaire dans le domaine de la musique où il voulait inventer un nouveau système de notation musicale.
Et son système de notation botanique a marché, non ?
Non, personne ne l'a adopté, mais c'est très joli.
Et il se baladait toujours avec son matériel, c'est ça, de botaniste sur lui ?
C'est un botaniste passionné, c'est-à-dire que c'est comme Monet quand il posait son pinceau aller jardiner, Rousseau quand il posait sa plume aller herboriser. Et alors lui, c'était l'herbier. Il collectait les plantes et il en faisait des herbiers. Et il en proposait même à ses amis. Il a écrit des lettres élémentaires sur la botanique, un dictionnaire de botanique. Toute une partie de son œuvre qui n'est pas très connue, mais qui a quand même ses spécialistes. Il y a un professeur de littérature japonais qui en a fait son objet d'étude. J'ai rencontré également une américaine charmante qui enseigne Rousseau et la botanique à Hong Kong. Donc,
c'est pointu.
Voilà. Les jardins secrets des grandes ce monde, c'était à découvrir dans les jardins. Dans les secrets des jardins de Pauline Tanon aux éditions La Librairie Vibert. Merci infiniment.
Merci beaucoup. C'est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de France, celle où catholiques et protestants s'entretuaient, que l'on va découvrir dans un instant, au cœur des intrigues et des assassinats, un roi, Henri III, et un mythe, le duc de Guise. Destin croisé dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.